Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwr.fr. Aujourd'hui, dans cette biotope consacrée à la ferme de Calroline, enregistrée en direct à la fête Tous en bottes qui se tient le 10 mai à La Baume, avec un certain nombre d'exposants, tous plus ou moins bio, des maraîchers, des fabricants de miel, des gens qui sont concernés par l'écologie, des gens qui font du recyclage de vêtements, de la spiruline, etc. Avec moi, Caroline Dumas, donc, qui a lancé, il y a une paire d'années, elle va nous préciser ça très bientôt, sa ferme qui fait des confitures, des poulets fermiers, de l'autocueillette, des sureaux et des noix. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Peut-être pourrais-tu nous expliquer d'où tu viens et pourquoi tu en es arrivée à l'agriculture, car ce n'était pas peut-être ta formation originelle ?
Si, je suis ingénieure agronome de formation, mais pas forcément vouée à devenir agricultrice. Ça fait pas très longtemps que je suis agricultrice. Je me suis installée à titre principal en 2008. Et avant, donc, j'ai eu différentes activités, mais beaucoup autour de la bio. En fait, depuis la sortie de l'école d'ingénieur, j'ai fait de l'animation, de la formation. J'étais à Corabio, la coordination régionale de l'agriculture bio. Au CFPPA de Die, j'ai monté les formations BPREA bio, donc pour s'installer agriculteur en bio. Et j'ai pu, grâce à des opportunités, m'installer moi aussi. Alors que c'était un vieux rêve, en fait. Hein. Je suis née en mai 68, donc j'ai un peu ça dans mes gènes. Je rêvais de faire de la poterie et des fromages de chèvre. Mais n'étant pas du milieu agricole et n'ayant pas beaucoup d'argent, ça devenait un rêve impossible. Et dans le Diwa, grâce à mes différentes activités, j'ai eu des opportunités. J'ai sauté dessus, ça s'est fait comme ça.
Alors ça s'est fait pendant que tu étais justement chargée de mission au CFPPA pour monter des formations BPRA.
Voilà, donc là j'ai rencontré des agriculteurs bio puisque je les faisais intervenir dans les formations. Et j'ai rencontré Jean-Marie Bompard avec qui j'ai eu un projet d'installation. Donc à un moment donné, lui, il avait planté des framboises et des cassis et des petits fruits. Et puis, il n'a pas pu s'en occuper pendant un an ou deux. Et moi, il m'a demandé si je voulais bien m'en occuper. Donc ça m'a permis de me tester sur le terrain. Et au bout de 2 ans, on a réfléchi ensemble à voir comment on pouvait s'installer tous les deux.
Et vous êtes passé par le circuit traditionnel des JIA ?
Alors moi, oui. Je me suis installée juste avant mes 40 ans, en fait. Un mois avant mes 40 ans. Du coup, j'ai pu avoir la DJA, la dotation jeune agriculteur, et les prêts JIA.
Parce qu'après 40 ans, tu n'as plus le droit à...
Non.
Tu as peut-être autre chose que non. Les vieux agriculteurs.
Non, rien pour aider les vieux. Et puis, il n'y a pas un an pour un enfant ou le service militaire ou rien. Non. C'est vraiment ton anniversaire des 40 ans. Si tu le dépasses et tu n'as pas déposé ton dossier, c'est foutu.
Et ça représente un montant non négligeable.
Ouais. C'est quand même 23 000 euros, moi, j'ai eu, je crois, de dotation. Ça s'est donné. Et puis après, c'est des prêts à 1%, ce qui est correct. Donc ça fait faire des dossiers, hein, c'est important. Moi, j'ai passé 6 mois avant de m'installer à travailler sur le dossier, les productions, les prévisionnels. Mais c'est intéressant, ça fait vraiment réfléchir sur comment on va sortir des revenus sur une ferme. Moi, surtout que c'était une toute petite ferme avec transformation et vente directe. Donc fallait bien tout calculer.
Alors, pour en avoir interviewé un certain nombre des jeunes agriculteurs en cours d'installation qui venaient de s'installer, il y en a un certain nombre qui quand même souffrent beaucoup de cette complexité administrative et qui d'ailleurs ont renoncé carrément, ils ont préféré ne pas avoir d'argent de la DJA, mais au moins ils ont cette liberté. Toi, tu as passé outre et tu t'as coltiné pendant 6 mois à ces dossiers, quoi.
Oui, alors c'est vrai que j'étais un peu formée pour ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose trop compliquée pour moi. Et moi, sans les sous que j'ai eus, je n'aurais pas pu m'installer. Hein. J'ai repris une ferme qui n'existait pas, il a fallu créer un labo de transfo, une poussinière, des cabanes à poulets, la plantation des framboisiers, l'irrigation, enfin tout ça. J'ai emprunté 58 000 euros et j'ai eu 23 000 euros. Et les 23 000 euros, c'est ce qui permet de vivre les premières années où on ne dégage rien, quoi. Hein. Donc, enfin, dans ma situation, c'était impossible de m'installer sans ça.
Justement, pendant qu'on y est, peut-être pourrais-tu nous faire part de toutes tes différentes productions que tu as entreprises ?
Donc aujourd'hui, la ferme elle est passée par différents stades en fait. J'ai pas pu m'installer en GAEC tout de suite. En CDOA, en fait, les administrations ont refusé l'aide jeune agriculteur si je m'installais en GAEC parce que c'était trop déséquilibré avec mon associé. Lui, il avait tout, il n'empruntait rien et moi, j'avais rien, j'empruntais tout et c'était moi qui portais les emprunts. Donc, ils ont refusé l'installation en GAEC et ils m'ont poussé à faire une exploitation individuelle.
Tu as parlé de GDOA ou un truc
CDOA, c'est la commission qui accepte ou pas ton aide jeune agriculteur. Donc ton dossier là que tu fais pendant 6 mois, c'est avec ton prévisionnel pendant 5 ans, etc. C'est ce qui est présenté en CDOA. Donc c'est une commission départementale d'orientation agricole, je crois, qui est composée des gens de la chambre, des gens des syndicats aussi, la CONF, la FNSEA. Il y a les banques qui te suivent ou pas. Enfin tout ça est étudié et ils acceptent ou pas de te donner la DGA.
Et c'est sévère comme sélection ?
Il faut que le dossier soit solide et il faut surtout qu'il y ait une banque qui ait accepté. Et moi, c'était les banques qui refusaient en fait l'installation en GAEC. Donc, et je les remercie en fait, hein, parce que je me suis donc installée en exploitation individuelle. Jean-Marie a dû accepter alors qu'il souhaitait vraiment qu'on s'installe en GAEC. On a fait comme ça. Du coup, on a créé 2 exploitations individuelles. On s'est mis en GAEC 1 an et demi plus tard et on a cassé le GAEC 1 an et demi plus tard. Parce qu'on n'était pas dans la même situation du tout, en fait. Et c'est ce que les banquiers avaient vu. Hein. C'est-à-dire que lui, il voulait faire aucun investissement, puisqu'il avait toutes les terres, tout le matériel. Et il a 13 ans de plus que moi. Du coup, il n'était pas du tout dans une dynamique de développement, de création, d'investissement. Et moi, j'avais besoin de créer, augmenter les ventes, etc. Donc, on n'avait pas les mêmes stratégies, les mêmes objectifs.
Justement, les prévisionnels que tu as montrés aux banques, est-ce qu'ils correspondent à quelque part à la réalité que tu as vue depuis ?
Alors, c'est vrai qu'on peut vraiment faire le point parce que je viens de finir les 5 ans, là. Je commence la 6e année d'installation. J'ai l'impression d'avoir fait exactement ce qu'il y avait écrit sur les papiers, mais je gagne beaucoup moins que ce qu'il y avait écrit sur les papiers. Donc, au niveau production, je suis arrivée à faire à peu près ce qui était dit. Mais les charges sont bien plus importantes. Au bout du compte, j'arrive à sortir 400 euros par mois, quoi. Au bout de 5 ans d'activité.
Sur un chiffre d'affaires global annuel de
40 000 à peu près. 40 000 euros. On va dire 15 000 en poulet, 15 000 en framboises, petits fruits, autocueillettes, transfo. Et puis après, les noyers, 6 000. Et après, il y a les pois chiches, les sirops, les jus, enfin des petites choses à côté. Et les poulets, par exemple, c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est 5 000 euros de marge au bout d'un an si on a payé l'aliment, les poussins, l'abattage.
Est-ce que c'est aussi réglementé que chez les ovins ? Est-ce que tu as le droit d'abattre toi-même tes propres poulets ?
Ah ben, je pourrais si je m'étais créé une tuerie, ça s'appelle une tuerie à la ferme, et je ne l'ai pas fait.
On ne se rend pas forcément compte, c'est beaucoup de travail d'élever des poulets ?
Bah c'est tous les jours, leur apporter à manger, à vérifier qu'ils ont à boire. Après, le gros travail, c'est quand on doit nettoyer une cabane, préparer la cabane pour les prochains. C'est ça, en fait, c'est une veille. Quand on a les poussins, il faut aller les voir 5 fois par jour, vérifier la température, voir si tout va bien. C'est une veille, on est tout le temps soucieux de ça, quoi.
Vous décramponnez pas, quoi ?
Ben non, et puis quand on part en week-end, il faut forcément payer quelqu'un pour aller les voir, donner à manger, avoir tout préparé. Bah, voilà, c'est... L'aliment, on ne l'achète pas tout fait. Hein. Nous, on fait une partie, on fait le maximum qu'on peut avec les terres qu'on a de notre blé, quoi, blé ou triticale. Et puis après, on achète un complément chez Barnier, en bio, pour compléter le blé. Donc, pour avoir les protéines, les lipides qu'il n'y a pas avec le blé, quoi, pour faire un aliment croissance. Et puis, quand ils ont 82 jours, donc nous, on arrête l'aliment Barnier, on ne met que du blé. Puisque normalement, ils ont atteint un poids correct. Puis après, on achète un complément chez Barnier en bio pour compléter le blé. Donc, ça, c'est du soja, du maïs, des tourteaux pour avoir les protéines, les lipides qu'il n'y a pas avec le blé, quoi, pour faire un aliment croissance. Et puis, quand ils ont 82 jours, donc nous, on arrête l'aliment Barnier, on met que du blé, puisque normalement, ils ont atteint un poids correct.
Comment avez-vous lutté contre ce problème des rapaces ?
Alors les rapaces, ben, on met des filets. Le plus près des cabanes, en fait, on a grandi chaque année. Mais les filets, c'est compliqué. Les parcs, c'est compliqué. C'est toujours de l'entretien. La neige les écroule à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on met des piquets, ça tombe. Enfin bon, donc c'est toujours... Ça paraît simple, mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours des choses qui détruisent et qu'il faut refaire. Et qui, voilà.
Ces poulets sont labellisés bio et oui. Donc tu peux les vendre relativement plus cher quand même.
Ben, je sais pas si je les vends bien cher. Moi, je les vends 10,60€ le kilo. J'ai entendu qu'en Ardèche, les poulets bio étaient plutôt à 12.
Par contre, ta production part instantanément.
Il m'en reste pas, non.
Ta production part instantanément.
Oui, oui, j'ai pas de... Non, il m'en reste pas, non.
Dans un petit coin. Alors ça, c'est ton activité poulet. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de tes autres activités?
Donc, l'autre activité principale, c'est les petits fruits. Donc, c'est vrai que ça a démarré sur la plantation de Jean-Marie Bompard, donc, qui avait mis 2500 m² de framboisiers, cassis, groseilles sur donc une parcelle le long de la Drôme à Mont-Laurent-d'Iois, et donc que j'ai repris en 2006. Et puis, donc, je me suis installée à titre principal en 2008. Mais déjà 2006-2007, j'ai commencé à faire une gamme de produits de transformation. Donc, j'ai créé mes recettes. Confiture de framboise, j'en ai fait trois différentes, la préférée des hommes, la préférée des femmes, la traditionnelle, un coulis de framboise, et puis après en groseille, cassis aussi un petit peu, une gamme. Donc dès ma préinstallation, on pourrait dire, j'ai créé mes produits et ça a bien marché, les commerces étaient contents, les clients aussi, et puis l'autocueillette commençait en 2007 aussi, donc, parce que ça fait beaucoup de framboises à ramasser quand même, et les framboisiers, j'en avais 5 variétés à l'époque. Et j'avais des framboises de fin juin, à peu près le 20 juin, les premières, jusque fin octobre, jusqu'à la première gelée. Donc, et c'est à cueillir tous les 2 ou 3 jours, donc ça fait quand même pas mal de cueillettes à faire. Et donc, très vite, je me suis dit que toute seule, j'y arriverais pas, qu'en embauchant, bah, ça serait pas rentable. Du coup, j'ai proposé l'autocueillette et j'ai ouvert la ferme pour venir cueillir les après-midi, le mercredi et le samedi.
Fonctionne.
Ah ouais, ouais, ouais. Et puis l'année dernière, parce que comme ça fait l'été dernier, ça c'était la 7e année que je le faisais, et j'avais trop de monde, quoi. Trop de monde pour le nombre de framboises et même le parking. Et j'ai dû embaucher du monde pour m'aider à tenir le stand. Là, c'était presque un peu compliqué, quoi.
Quand on autocueille ces framboises, on vient et on les paye sûrement moins cher, c'est-à-dire?
Eh bien là, moi je les vends 8€ le kilo.
Alors que si on les achète en barquette, c'est...
Bah alors là, les prix, c'est variable, mais ça peut aller jusqu'à 24€ le kilo, hein, aujourd'hui. Hein. C'est un peu de la folie, mais... Parce que maintenant, tu achètes à 2,50€ la barquette de 125 grammes. Donc 125 grammes, c'est 20€ le kilo, ouais, ça.
20€ le kilo.
Non, les gens sont contents, hein, le prix... J'ai toutes sortes de publics et en général, des gens super contents, quoi.
Concernant ton activité de transformation, j'ai vu que tu avais au moins, je sais pas, 25 références différentes de confitures. Alors, si tu peux en citer même quelques spécialités.
Il y a tout ce qui est issu des fruits rouges. Donc, je fais des mélanges spéciaux, framboise cassis, 3 fruits rouges avec groseille framboise cassis. Mais j'ai bien calculé les proportions pour qu'on sente les 3 fruits. Mais après, je fais aussi à partir de la gingérine, donc, que je cultive aussi, donc de la pastèque. Donc, j'appelle ça pastèque, mais c'est de la gingérine. Mais j'appelle pastèque orange, rhum vanille, pastèque orange zeste, je fais cassis menthe, je fais des mélanges aussi poire sureau, ça c'est en mélangeant avec mes sirops de fleurs, mes sirops de feuilles.
Et tout ça c'est avec des produits locaux, la pastèque, la gingérine est locale aussi?
Ah bah c'est moi qui la cultive, la gingérine. Ouais.
Je ne connaissais pas ce fruit.
C'est les anciens qui connaissent ça, ça se fait à peu près dans tout le sud de la France, c'est une grosse pastèque qui ressemble à nos pastèques qu'on mange rouges à l'intérieur, mais là elle ressemble vraiment à ça, sauf que dedans elle est vert clair et elle se mange que cuite. Ça s'appelle la ciste aussi, gingérine. Elle a plusieurs noms, mais c'est surtout dans le sud de la France.
Pour en revenir à cet atelier de transformation, est-ce que tu as dû passer entre les fourches codines d'organismes certificateurs au point de vue hygiène, sécurité?
Non. Pour la transformation végétale et sucrée, il n'y a pas de normes. Il faut avoir un labo propre. Moi, les seuls qui viennent voir, c'est... Il est certifié bio, en fait, mon labo. Mais c'est donc le certificateur... moi, je suis chez Qualité France... qui vient voir et puis qui le... Je paye 80€ pour qu'il soit certifié, mais c'est tout.
Ça fait partie des frais.
Voilà.
Et donc, rappelle-moi, alors combien de références de confitures différentes?
Je ne sais même pas, mais je pense qu'il y en a une vingtaine, ouais. Parce que je fais des déclinaisons avec la poire, je fais poire sureau, poire cannelle gingembre, poire cassis.
Et la différence entre un coulis et une confiture, laquelle est-ce?
Ben, le coulis, en fait, donc je les épépine, hein, les coulis, hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus de pépins... la différence, c'est le taux de sucre. Je mets 300 grammes de sucre pour 1 kilo dans mes coulis, alors que les confitures, c'est plutôt autour de 800 grammes.
Ça aussi, je suppose que ça représente, outre les poulets, encore une activité qui demande une présence constante.
Ah ben non, parce que là, non, moi je congèle. Hein. Je congèle tous mes fruits. Donc je transforme quand je veux et je transforme des journées entières où j'ai décongelé avant les fruits que je voulais transformer. Donc ça, c'est plutôt un travail optimisé. Je vais dire, on n'est pas là tout le temps à devoir transformer. Moi, je fonctionne un peu en flux tendu, c'est-à-dire je fabrique les confitures dont j'ai besoin dans mon stock, quoi.
Et alors, ça représente beaucoup de travail, tout ce conditionnement, cette transformation ?
Ben, je ne sais pas, mais je dirais à peu près 50 journées par an de transfo. Voilà, une par semaine, tu vois.
En fait, c'est de la cuisine, quoi.
Ouais, exactement. Je suis formatrice pour le CFPPA. Je fais des TP transfo, confiture, coulis, sirop. Donc, ils viennent là depuis pratiquement 6 ans. Le CFPPA m'embauche 2 jours par an pour faire les TP.
Quels sont tes circuits de distribution pour ces produits-là ?
Donc, moi, j'étais une jeune agricultrice un peu trop vieille pour faire les marchés, à mon goût. C'est fatigant, les marchés. Donc, j'en ai fait un petit peu. Je fais un peu quelques foires spécialisées. Mais mais là c'est aussi pour soutenir la SIC Biège Coopérative. Mais moi mon idée c'était de vendre dans les magasins bio. Donc je vends dans les magasins bio de la vallée de la Drôme, la Carline, l'Étincelle, et puis un peu plus loin chez des producteurs aussi, chez Terrail à Montméran. Et puis maintenant, cette année, comme j'ai un peu plus de production que les autres années, je suis partie aussi dans du côté de Sisteron. Donc j'ai aussi des magasins bio. Voilà.
Et tes produits partent les doigts dans le nez ?
Ben, ils partent bien, ouais. Et puis à chaque fois que je vais voir un magasin, ils me les prennent.
Et quant à la marge, elle est satisfaisante ?
Ben, moi, j'ai fixé mon prix au magasin. Ils font la marge qu'ils veulent dessus et ils fixent leur prix comme ça. Moi, je fais pas l'inverse. Ouais.
Je vois que tu fais des sirops, toujours à base de tes fruits rouges ?
Non, les sirops, c'est des sirops de fleurs et de sirops de feuilles. Donc, je cultive des menthes, 3 sortes de menthes et puis des roses, donc avec lesquelles je fais des sirops. Et de la gelée de roses aussi. Et puis, acacia et sureau en cueillette sauvage. Et je ne fais pas de sirop de petits fruits. Voilà. C'est un peu compliqué, il faudrait que j'ai une presse. Enfin, faudrait que pour l'instant, je ne suis pas équipée pour le faire.
Donc, ça veut dire qu'en fait, tu passes par un sous-traitant pour faire une partie
de
la transformation ?
Non. Mes sirops, je les fais parce que c'est des sirops de fleurs et des sirops de feuilles. Ce que je ne peux pas faire, c'est les sirops de fruits rouges. Voilà, donc je ne les fais pas.
Et enfin, dernière activité, les noix.
Oui.
Et l'huile de noix, tu fais de l'huile de noix.
Donc c'est récent ça, l'huile de noix. Jusqu'à maintenant, donc j'ai 1 hectare 120 de noyers à Luc-en-Diois. Et donc mes noix, elles partent pratiquement toutes à Copénois. Donc c'est la seule production que je vends en coopérative. C'est bien, bien rémunéré. Mais j'ai voulu garder les petites noix. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des noix, qui gardent leurs petites noix qui sont moins bien payées pour faire de l'huile. Donc on les casse et puis les cerneaux, on va les faire presser dans une presse. Moi, je vais à l'huilerie Richard à Montoison. Là. Et donc maintenant, je vends quelques bouteilles d'huile en 25 centilitres et 50 centilitres.
Il n'y a pas de pressoir dans le Diois pour les noix ?
Non.
Ah oui,
pressoir bio, non. En plus, il faut qu'il soit certifié bio. Ouais. Non. Il n'y a pas. Avant, les gens dans le Diois, ils allaient à Cray, mais c'était un petit pépé, là, je crois, qui faisait ça. En tout cas, il n'était pas certifié bio. Et... Non.
Et en discutant avec toi tout à l'heure, tu m'as appris, et donc nous allons le faire ici même, tu m'as appris qu'effectivement, la noix, ça paye. Parce que moi, j'avais cru comprendre que, premièrement, la petite noix du Diois était trop petite pour les temps modernes. Vous savez, les gens, ils veulent des grosses noix bien charnues. Et que en fait les prix étaient, on voyait des champs de noyers un peu en déshérence. Mais en fait non, ça marche plutôt bien la noix.
Ben depuis 4-5 ans la noix ça paye, ouais. Mais je sais pas, ça se dit pas trop, tu sais, les choses qui payent, les gens se le gardent. Je crois qu'il y a un peu de ça. On veut pas dire que ça paye. Mais là par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vallée du Rhône, et ben les gens qui ont dû arracher leur pêcher à cause de la charca, et ben ils plantent des noyers, voilà, parce que ça paye.
Donc potentiellement dans 10-15 ans, quand ils seront prêts,
il y aura une baisse du prix des noix
sur les volumes et sur les prix.
Ben ouais. Surtout bon. Qu'aujourd'hui c'est les Chinois qui achètent les noix, il paraît, et que pareil ils plantent là-bas. Mais c'est vrai qu'un noyer il donne bien minimum au bout de 10 ans, hein. Et même c'est plutôt 15 voire 18. Enfin...
Moi j'aime bien les chiffres. Combien de noix ça fait un noyer ?
Écoute, je peux pas te dire comme ça, mais je sais que moi j'ai 76 noyers sur mon hectare 120 et que cette année j'ai fait 2 tonnes. Voilà. Alors, j'essaie de te dire les prix. Là. Les petites noix sont payées 1,50€ le kilo. et les grosses noix, 3 euros le kilo, en bio. Hein. Donc voilà.
Petite question, comment peut-on avoir un noyer bio? Alors, on ne lui donne pas de pesticides?
On ne le traite pas et on ne lui met pas des engrais chimiques non plus. Donc c'est sans engrais chimiques ni pesticides. Bon, moi je t'avoue, je ne les traite absolument pas mes noyers. Mais quand même, il y a des maladies et il y a des champignons qui se mettent. Donc il faudrait traiter un peu, même en bio, on peut traiter à la bouillie bordelaise ou des produits à base de cuivre qui sont autorisés. Hein. Nous, on ne traite pas du tout. Après, il faut leur mettre des engrais. Nous, on leur met tous nos fumiers de cabane, quoi, à poulet. Ça part tout sur les noyers. Parce que ce serait trop riche en nitrates pour nos petits fruits. Donc, on met tout sur nos noyers. Donc. Nous, c'est un fumier pailleux. Hein. On est sur paille. Mais c'est quand même de la fiente de volaille. Hein. Donc, c'est fort.
Mais un noyer, on peut dire que c'est peut-être moins fragile que d'autres arbres fruitiers, non peut-être.
C'est assez fragile. Je ne sais pas bien pourquoi, mais par exemple, les noyers abandonnés, ils meurent au bout de 4-5 ans. Il faut les griffer. Ça craint beaucoup la concurrence. Enfin, c'est assez étonnant, mais les noyerets abandonnés, elles meurent. Ah, pourtant, c'est des arbres magnifiques, gros et tout ça. Ben non. Si on ne vient pas s'occuper d'eux, griffer ou... Alors, ce qui est un peu bizarre, tu parlais des grosses noix, c'est vrai qu'elles sont quand même bien mieux payées que les petites. Hein. Et donc, maintenant, même dans le Diwa, même en bio, les noyers sont irrigués. Donc, ce qui n'est pas très écolo, mais voilà, on arrive à faire du noyer irrigué maintenant.
Pour avoir des grosses noix, justement.
Oui, pour augmenter la taille.
Tu m'as dit à plusieurs reprises que tu étais bio, j'ai bien compris que c'était important à tes yeux. Et pourquoi est-ce important à ce point-là?
Comment dire? Je n'ai pas l'impression d'être une militante forcenée. C'est-à-dire que pour moi... Il y a des agricultures qui sont tout à fait valables, même si elles ne sont pas bio. Parce que ce qui est important pour moi, c'est la polyculture élevage, par exemple. C'est un certain équilibre sur la ferme, c'est respecter le vivant. Moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, que ça a du sens. Quand je suis dans mes framboisiers ou avec mes poulets, je n'ai pas l'impression que je suis en dehors de la vie, du monde. Enfin, je participe au vivant. Par contre, c'est un métier dur. C'est très physique, il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que c'est un des métiers les plus difficiles, c'est certainement un des plus beaux métiers du monde et un des plus difficiles aussi.
Il y a plus de travail parce qu'on est dans le bio.
Ah ben ouais, on se débat en permanence contre les mauvaises herbes, Et à la fois, moi je serais tentée de laisser faire, c'est vrai que la permaculture c'est quelque chose qui m'attire, mais pour l'instant moi je ne saurais pas faire. Hein. Donc on désherbe, on griffe, on fait avec les moyens qu'on a. Mais aussi, la nature est généreuse hein, quand on voit la quantité de petits fruits que ça nous fait l'été. Donc voilà, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des êtres vivants, que ce soit les plantes ou les animaux. Et ça, pour moi, ça fait du bien.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Caroline Dumas, tu t'es lancée à la ferme de Caroline, basée à Mont-Laurent-Diwa, qui fait entre autres des poulets, des confitures, des sirops, de la noix et de l'huile de noix. Mais tu t'es lancée dans une activité d'auto-cueillette de framboises. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça s'est passé?
Donc, je suis installée depuis 2006 sur ces framboisiers et j'ai ouvert l'auto-cueillette en l'été 2007. Donc ça fait 7 ans d'expérience où le public vient l'été de juillet à août cueillir le mercredi après-midi de 16h à 19h sur mes champs. Ça a été un choix de faire ça parce que je ne pouvais pas cueillir les framboises toute seule vu les 2500 m² de plantation. Et parce qu'en plus, j'aime recevoir le public. Et pour moi qui ne fais pas les marchés, c'est le moyen de rencontrer ma clientèle. Je tiens un stand aussi où je vends mes confitures, mes coulis et fais goûter mes sirops à ce moment-là. Et c'est un moment agréable et rémunérateur puisque je fais un chiffre d'affaires de 300-400 € dans une après-midi. Donc j'ai 5 variétés de framboisiers, des remontantes et des non-remontantes. Donc au final, j'ai des framboises de fin juin jusqu'à fin octobre.
Qu'est-ce que tu en dirais de ce projet au bout de 6 à 7 ans d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à des gens qui auraient quelques terres?
Il faut vraiment le faire si on aime recevoir le public. Au début, je le faisais le mercredi et le samedi. Donc, tous les mercredis et les samedis, de 16h à 19h, il fallait être là. Et puis, quand je dis 16h à 19h, c'est l'ouverture. Il faut être là de 15h à 20h, hein, entre le temps de ranger et tout ça. Et puis, il faut aimer avoir du monde, recevoir, discuter.
D'un autre côté, c'est peut-être quand même, comme tu le disais, beaucoup moins lourd en termes
d'installation, de marché, tout ça. Moi, je préfère.
Et puis de travail aussi, puisque en fait, tu laisses les gens travailler à ta place quand même.
C'est sûr que c'est une bonne solution pour les petits fruits. Il y a beaucoup de gens, de producteurs qui s'interrogent sur le fait que les gens abîment ou pas. Le framboisier, c'est quand même une culture très rustique et qui ne s'abîme pas bien. En 7 ans, je n'ai vraiment pas vu d'accident où on m'a abîmé les framboises. Les gens en mangent. Je préviens les enfants, je leur dis qu'ils ont le droit d'en manger 10 pour goûter et puis c'est tout. Après, je n'accepte plus les groupes. Ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas forcément choisi d'être là. Et donc là, il peut y avoir du dégât et puis ils en mangent, ils en font tomber. Enfin, des choses qui ne sont pas tellement acceptables, quoi.
Et en termes financiers, y a-t-il un investissement particulier à part le fait d'entretenir ces framboisiers? Et en termes de rentrée, quelle est la différence de prix?
Moi là, je vends 8 euros le kilo de framboisier, donc ramassé par les gens. Si moi je le vends, je vends à 11 euros le kilo quand je les vends en vrac. Hein. Et si je les transforme, ça fait du 19 euros le kilo. Les investissements, il n'y en a pas vraiment de nécessaire spécifique. Il faut juste que l'accueil soit possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une activité pas forcément très légale. Dernièrement, la MSA est venue me voir en me disant qu'on était à la limite parce qu'il y a l'histoire du travail au noir. Ça pourrait être considéré comme du travail au noir puisque les gens ramassent.
Oui, mais il n'y a pas de vente après. C'est pour eux.
Aujourd'hui, la législation agricole, a priori, n'a pas pris en compte encore ce type d'activité. Mais il y a une tolérance, hein, puisque je ne connais personne qui a été embêté avec ça.
Est-ce que tu n'es pas la seule à pratiquer?
Bah, dans le Diwa, je crois. Enfin, je pense qu'il y a eu un peu d'autocueillette de fraises à Die l'année dernière et il y a quelques années. Mais sinon, ça se fait autour des grandes villes, surtout. Moi, je connaissais ça dans la région toulousaine pour tous les légumes. Hein. Les gens se promenaient avec leurs brouettes pour aller ramasser leurs légumes, ramasser leurs fruits, les fleurs. Donc, ça existe. Hein.
Et Caroline, si d'aventure des gens étaient intéressés pour reproduire ton expérience, est-ce que tu accepterais de livrer tes coordonnées?
C'est le 06 64 26 05 31.
Pour les gens que ça intéresse, hein, la ferme de Caroline se trouve donc à Mont-Laurent-d'Iois.
À l'entrée de Mont-Laure, quand on vient de Die, sur la gauche, au côté de la Drôme. Et donc c'est tous les mercredis de 16h à 19h, juillet-août.
On ferait mieux de te prévenir avant de venir ou... Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Air Diwa et Radio Saint-Ferréol.